Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. En ce moment, je vous avoue, je les enchaîne, l'emploi du temps, il est fou, mais c'est que du plaisir, c'est que du régal. Et aujourd'hui, j'en ai un autre qui m'a, je vous le dis pas là officiellement, mais en off, j'étais un peu bousculé par l'émotion. Je reçois Loïc Rémy, qui a animé mon enfance de football, qui m'a fait rêver, qui m'a régalé, même si elle était à Marseille et que ça m'a fait souffrir. Loïc, comment tu vas, mon ami?
Bah écoute, ça va très très bien, très très bien. Merci de me recevoir. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaye de trouver, de caler une date, etc. Donc merci de me recevoir avant tout. Et puis bah écoute, ça va être un pur moment de plaisir à parler de choses et d'autres.
À parler de choses et d'autres, ouais. En tout cas, ça vaut le coup, ça valait le coup d'attendre, donc c'est un plaisir. On va parler un petit peu de ton actualité, parce que je t'avoue, quand j'ai annoncé que tu étais avec moi aujourd'hui, les gens m'ont tout de suite dit qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il reprend un club, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Brest, où il en est, etc. etc. Ouais. Est-ce qu'il va annoncer sa retraite? Donc, on va éclaircir les choses dès maintenant. Ouais. Déjà, tu as l'air en forme, tu as l'air entretenu. Je suis tes réseaux sociaux, donc je vois que monsieur, quoi qu'il en soit, n'a pas arrêté le sport.
Non, on essaye.
T'en es où, mon ami? Qu'est-ce qui se passe?
Bah écoute, on essaye de garder la forme, comme tu dis. Je m'entretiens, donc voilà, tout simplement. Mais avec l'épisode de Brest, moi, c'était révélateur dans le sens où Éric Roy m'a donné la chance de revenir, de revenir en France, de rejouer dans un club après 8 mois sans club. Donc ça a été une grande période pour moi où j'ai pas pu toucher le ballon, où ça me manquait énormément. Éric m'a donné cette chance-là et malheureusement, c'est vrai qu'on a tout mis en œuvre pour que je puisse reprendre et avec le staff technique, etc. Mais je pense que mon corps aussi m'a fait comprendre pas mal de choses, notamment des signaux où j'ai eu des pépins musculaires pendant ces 5 mois. Donc écoute, pour l'instant, on va dire que je suis en vacances, je profite. Je ne te dis pas que j'arrête, je ne te dis pas que je continue, pour être honnête, je ne veux pas me mettre ça en tête, mais voilà, pour l'instant, je profite de mes vacances.
Écoute Loïc, c'est tout à fait à propos du coup qu'on ait cet entretien parce que j'ai envie qu'on parle de tout ce que tu as vécu. Donc, ouais. On va se remémorer tout ça et on va rester dans la joie de vivre et dans la bonne humeur et tes bons souvenirs.
Toujours, toujours, toujours.
Bon, on va reprendre depuis le début parce que dans cette émission, je le dis très souvent, j'aime bien comprendre comment a grandi l'homme que tu es devenu aujourd'hui, les influences, les peines, les joies qui ont mené à certains choix. Et pour ça, je pense qu'il faut remonter tout de suite à l'enfance parce que ça décide de beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, ouais, qui le négligent, mais ça décide de beaucoup de choses. Tu es né pas loin de Lyon,
oui,
à Rieux-le-Pape, si je ne dis pas de bêtises.
Alors non, c'est une petite rectif. Moi, j'ai grandi à Rieux-le-Pape, je suis né à Lyon 4e. Voilà, c'est juste,
ah, tu es né à Lyon. Okay.
Je suis né à Lyon. Lyon
4. Ok, donc pur lyonnais 100%. Il n'y a pas 100%. De doute. D'accord, ok. Dis-moi, comment est la vie sociale un petit peu, la vie de famille, le niveau social que vous avez ensemble, dans quel environnement tu grandis, toi, avant que le foot débarque vraiment?
Alors, bah, c'est bien que tu fasses le point là-dessus, parce que comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est la base de tout, c'est de savoir d'où on vient pour pouvoir connaître une personne. Voilà. Alors nous, on a grandi dans un milieu très, très modeste. Ma mère était femme de ménage, mon père était routier. Donc voilà, on a grandi avec ma grande sœur, qui a un an plus que moi, dans un petit quartier justement qui s'appelle Rieux-la-Pape, dans la banlieue périphérie lyonnaise. Et puis voilà, ça a été une enfance, je ne vais pas me plaindre, une belle enfance, parce qu'il n'y avait pas le sou, mais par contre, avec les peu de moyens qu'on avait, ma mère surtout a su nous donner esprit privé justement pour nous. Et ce rôle-là de maman et de papa en même temps, puisque mes parents étaient divorcés assez jeunes. Pour moi, je ne peux qu'avoir de la reconnaissance pour mes pères parce que c'est des choses qu'on réalise après coup en étant papa et en se disant que tous les sacrifices qu'on fait pour nos enfants, c'est la meilleure réponse qu'on peut leur donner à n'importe quel niveau d'ailleurs, c'est d'exceller ou de faire quelque chose de nos vies honnêtement. Donc, milieu très modeste. J'ai grandi dans un quartier avec mes potes, on s'amusait avec un ballon, on avait un genre de city stade près de la maison, donc c'était ça, nos occupations principales, c'était ça, voilà, c'était d'avoir un ballon, d'avoir cette communion entre nous, et puis de prendre du plaisir tout simplement. Hein. Donc,
tu me dis que tes parents se sont séparés quand tu étais assez jeune, et un bel hommage à ta maman, très bel hommage, ouais, à ta maman. Ton papa joue quel rôle? Est-ce qu'il est quand même présent dans l'éducation? Est-ce qu'il soutient quand même ta famille? Comment ça se passe la relation une fois qu'il y a la séparation?
Alors, pour être honnête, ça c'est un sujet qui est quand même sensible, on va dire, mais sans rentrer dans les grandes lignes, ouais, je pense qu'aujourd'hui, ma mère, c'est le poteau mitant, comme on dirait aux Antilles, c'est vraiment le mur fondateur dans une maison. Et bon, moi, je lui tire mon chapeau, hein, comme à beaucoup de mamans d'ailleurs, mais mon papa, c'était moins présent, on va dire, moins présent, voilà, pour résumer dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, bah, ma maman, c'est vrai qu'on avait cette relation-là très très proche, très fusionnelle, justement parce qu'il y avait ce manque qui était là et qu'elle a essayé de combler, qu'elle a essayé de combler comme elle pouvait, quoi. Mais je peux pas dire que le papa était très présent. Ouais.
D'accord.
Mais bon, je lui en veux pas du tout et c'est comme ça. J'en fais pas une fatalité. C'est juste que ben, je pense que aujourd'hui, c'est des choses qui m'ont limite. Forger un caractère parce qu'aujourd'hui j'avais besoin de cette force de caractère pour passer le cap.
L'année où toi, tu rejoins l'équipe première, on est sur la saison 2006-2007.
Ouais.
Fred, Benzema, Wiltord, Govou, Malouda, c'est... Ouais.
C'était la grosse équipe, hein, on va pas se mentir.
Ouais.
Quand tu sortais du centre de formation de l'OL pour trouver ta place en pro à cette époque-là, je te dis, bah, tu avais Karim Benzema, Hatem Ben Arfa qui était déjà pro.
Ouais.
Le reste, on s'entraînait de temps en temps avec les pros, on faisait les bancs, mais vraiment rarement. Et pour faire une place là, c'était vraiment. Aujourd'hui, je pense que Lyon ça fait quelques années, mais a déjà plus mis en avant le centre de formation. Donc, on voit déjà plus de jeunes qui sortent. À l'époque, c'était compliqué. Et moi, je vais dire, bon, il y avait le talent, c'est indéniable, mais j'ai eu une part de chance aussi. Et je pense que tous les joueurs qui ont pu passer au-dessus ont cette part de chance au bon moment d'avoir l'entraîneur qu'on a à la bonne, d'avoir je sais pas, le bon entraînement. Enfin, et moi, clairement, ça a été ça, en fait. Ça a été alors, j'ai eu une blessure au ménisque en pleine croissance. Je devais avoir 14 ans, 15 ans. Et si tu veux, ben, les médecins prédisaient que je devais arrêter le foot. Donc mon genou gonflait pour rien, sans rien faire des fois, et franchement, c'était vie. Et donc du coup, il y a un médecin qui me réunit un jour avec ma mère, on est dans le bureau, je me souviens, et puis le médecin me dit, écoutez, madame, il va falloir songer à arrêter le foot, parce qu'on a tout essayé pour votre fils, on a les ponctions, etc., mais il n'y a rien qui va, et on ne comprend pas, on n'arrive pas à gérer, en fait, on est dépassé. Et le médecin me dit ça. Et donc, si tu veux, à 14-15 ans, ton rêve de gosse, bah, il y a quelqu'un qui vient le piétiner d'un coup en te disant ça, je m'effondre. Clairement, je me souviens, ma mère qui est à côté de moi et qui me dit, écoute, c'est pas bien grave, peu importe ce que tu feras dans ta vie, je serai fier de toi. Alors, quand elle m'a dit ça, clairement, ça a été un élan. Et puis, je me suis dit, bon, OK. Mais dans ma tête, c'était impossible que j'arrête le foot. Si tu veux, c'était le foot ou le foot. J'étais conditionné pour ça et je me suis dit, il est hors de question que sur la décision d'un médecin, parce que j'aurais pu, hein. Tu sais, il y a des gens qui se disent, bon, bah, c'est une fatalité, bon, tant pis, et puis ils se laissent un peu. Voilà. Moi, c'était hors de question. Et quand il m'a dit ça, alors certes, j'ai pleuré, et derrière, bah, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et au final, tu vois qu'on est en train de parler là d'une carrière, alors que les médecins te prédisaient 2-3 ans, pas plus, quoi. Donc, comme quoi. Il y a rien d'impossible, en fait. Ouais.
C'est incroyable. Comme quoi, ça se joue à vraiment pas grand-chose.
Ouais,
Ok.
un peu de choses, ouais. Ouais. La part chance, elle est quand même là.
Alors, il y a de la chance à ce moment-là. C'est de la chance, mais pas que. Mais au moment de l'intégration de l'équipe première, explique-moi comment ça se passe. Quand on a une équipe première de ce niveau-là, clairement sans égal en France, sans égal,
Ouais.
qui a doublé ses postes, presque des internationaux à chaque poste, quand on est un jeune, qu'on débarque du monde de l'académie, comment on arrive à intégrer ce groupe-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on nous fait un peu de place? Est-ce qu'au contraire, c'est compétition à tous les niveaux et justement, bah, on t'apprend en petit, si tu veux aller chercher quelque chose, il va falloir que tu viennes le chercher. Comment ça se passe pour toi l'intégration?
Alors, en fait, le truc, c'est que donc on s'entraînait donc avec la réserve de la CFA de l'Olympique Lyonnais. Et si tu veux, ben, plein de problèmes de genoux qui ça continuait. Donc, je prenais beaucoup de retard, moi, par rapport
Ouais.
aux autres, ou même les jeunes de mon âge qui étaient en sélection espoir, qui ont fait toutes les sélections jeunes. J'en ai fait aucune, d'ailleurs, j'ai fait que la sélection espoir. Et il arrive un jour où le club part je crois que c'est en pré-saison à Châteauroux, donc, sous l'époque de Gérard Rouillet. D'ailleurs, paix à son âme, parce que pour moi, lui, c'était. c'est grâce à lui et je l'ai remercié à chaque fois que je l'ai recroisé sur un terrain parce que c'est lui qui m'a lancé un peu dans le grand bain. Il partait en stage de pré-saison à Châteauroux et ils avaient besoin de quelques joueurs pour un complément d'effectif. Et pourquoi je te dis que la part de chance est là ? Parce que j'ai été tiré dans ces joueurs-là pour justement faire le stage de pré-saison alors que je me suis entraîné quelques fois avec les pros. Et tu vois, à ce moment-là, je me dis c'est la chance d'une vie et c'est le train qui passe et qu'il faut le prendre maintenant. Là. C'est maintenant ou jamais. Et donc, je pars en stage à Châteauroux, mais pour moi, tu vois, c'est des trucs tout nouveaux qui viennent. C'est des avions privés, c'est des hôtels de luxe, c'est des trucs dont je n'ai pas l'habitude du tout. C'est des grands joueurs, c'est une équipe qui est championne de France. Et je suis conscient de tout ça en me disant, waouh, tu arrives dans c'est un truc de foot qui t'arrive. Mais par contre, je suis aussi conscient de ne te laisse pas influencer par tout ça. Tu es là pour une raison. Donc, qu'est-ce que tu as à faire ? Tu vois, tu es en mission, clairement.
OK.
Et donc, on arrive, etc. Le stage commence. Et là, je me dis, bah écoute, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Fais ce que tu as à faire. Donne tout. Et donc, je tombe contre les mecs, Abidal, le mec qui est les Chris, Kassapa, Toto Skilacci, tu vois, des gars qui ont déjà du vécu, qui ont de l'expérience. Mais bon, j'essaye de faire ce que je peux faire avec mes qualités. Et là, le stage se passe. Je ne peux pas te dire il se passe bien ou pas bien, parce que voilà, je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Mais quand on rentre de Châteauroux, on est sur le tarmac, je vais pour monter dans l'avion. Et là, tu as Gérard Houillet qui m'attrape le bras. Donc, je suis en passe de monter et qui me dit écoute, tu vois, j'avais entendu ton nom un peu avant, mais il me dit que sache que tu as fait un très très bon stage avec nous, continue comme ça. Du haut de mes 18 ans ou je ne sais plus quoi, je rentre dans l'avion, je m'assois, la première chose que je fais, je prends mon téléphone. Allô, maman ? Parce que c'était un truc de fou ce qu'il venait de me dire. Maman, tu sais pas ce qu'il m'a dit, Gérard, le coach, pardon, il me dit t'as fait un bon stage, il est content. Et ma mère, tu sais, c'était toujours le genre de maman, toujours dans le. Je vais te donner un exemple. T'as le 13 sur 20, 14 sur 20, ouais, mais t'aurais pu avoir plus, tu vois le truc. Toujours à essayer de. Voilà. Et elle me dit arrête de mentir, tu me racontes des cracks. Je lui dis maman, je te jure, c'est vrai, il m'a dit ça. Et alors elle me dit écoute, tu vas rentrer à la maison, tu vas mettre tes deux genoux à terre et tu vas remercier en fait Dieu pour ces bénédictions-là parce qu'il y a des millions et des millions de petits jeunes qui auraient aimé être à ta place-là. Donc, remercie pour ces trucs-là. Et donc, c'est ce qui se passe. Et en fait, ça découle je pense que c'est peut-être le mois d'après qui suit, mon agent qui m'appelle, je suis à la maison, je me lève de la sieste. Et mon agent qui me dit, t'es où ? Je dis, moi, à la maison. Il me dit, il faut que tu viennes au centre d'entraînement, PISA. Je dis pourquoi ? Moi, dans ma tête, j'ai fait une bêtise. Tu sais, ouais. J'étais un peu, j'étais un peu un boucan, on va dire. Mais dans ma tête, j'ai fait une bêtise. Il me dit non, viens. Et il me dit rien. Il me dit ni pourquoi ni comment. Il me dit juste viens. Je m'habille et sur le chemin, je suis en train de cogiter. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Comment ils vont me virer ? Comment ça va se passer ? Tu vois, je vois un truc de fou dans ma tête. Je me dis waouh, ah, je suis pas bien. J'arrive à Tolavologe. C'était à Tolavologe à l'époque. Ouais. Mon agent qui reste neutre, pas de sourire, pas rien. Et qui monte, on monte, tac, 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 bureau de Jean-Michel Aulas, il ouvre la porte, et là, il me dit, assieds-toi, je m'assois, et je me souviens, un papier comme ça sur le côté, premier avenant au contrat pro. Mais si tu veux, pour moi, c'est pas possible. En fait, je suis limite à me claquer comme ça, en me disant, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. C'est pour te dire à quel point c'est allé vite, le truc, et là, donc, le président qui commence à parler, il me dit, écoute, t'es issu de Lyon, je sais que t'es fier d'avoir été au centre de formation, que c'est une fierté pour toi, donc on voudrait t'offrir ton premier contrat pro. Et tu vois, quand t'entends ça, tu vois ta vie basculer, mais je peux pas t'expliquer à la fraction de seconde quand il m'a dit ça, j'y croyais pas, parce que je me dis, c'est pas possible. Tu vois, pourquoi moi ? Et en fait, comme je te dis, la part de chance était là aussi. Donc il y avait le talent, parce que j'aurais pu ne pas faire un bon stage avec eux, et puis derrière, ça aurait pas... Ça aurait pas fait effet boule de neige, mais ça allait tellement vite. Et j'avais dit au président, je me rappelle, j'ai dit, il faut que j'appelle ma mère, tu sais, pour qu'elle sache, pour que ce soit la première à informer, parce que c'est pour elle que je fais ça. Tu vois, j'ai pas pu lui offrir de grandes études, mais par contre, pour tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour moi, c'était une juste récompense, tu vois. Et je sais qu'elle aurait été fière. Et je me souviens donc. Pour la petite anecdote, je devais avoir 7-8 ans, on l'accompagnait des fois le week-end quand elle n'avait pas de nounou pour nous garder. Et on s'arrête au passage piéton et puis je vois une agence IMO, des grandes maisons. Et je dis, maman, quand je serai grand, je t'achèterai celle-là. Et puis elle commence à me dire, écoute, commence à bien travailler, à être un bon garçon, à écouter les gens, et puis on verra après. Puis, tu sais, une manière de dire, ouais, tu sais, dans tes rêves, tu
Ouais.
vois. Et donc j'appelle ma mère, etc. Et puis je dis, maman, ils sont en passe de m'offrir mon premier contrat pro, là. Et pareil, tu sais, choqué, etc. Et je lui dis, tu vois, quand je te dis, j'avais 7-8 ans, que je te disais pas des conneries, c'était vrai que j'allais te l'acheter ta maison, tu vois. Et en fait, ça a été pour moi c'était, bon, pour moi, c'était quand même un changement de vie, mais pour elle, je sais que elle s'est dit, bah, tu vois, je me suis privé pour mes petits, pour les mettre en école privée, malgré tout, faire des crédits, mais par contre, c'était pour moi une juste récompense, en tout cas.
C'est sa victoire aussi. C'est sa
Ouais.
victoire aussi.
Ouais.
Okay. Sur les deux saisons que tu fais avec les pros, tu es d'abord sous Gérard Rouillet, tu l'avais dit,
Ouais.
et après tu es sous Alain Perrin. Assez vite, nous, comme beaucoup de talents lyonnais, mais on n'arrive pas à mesurer à quel point vous êtes fort. C'est-à-dire, on te voit comme étant un talent pur, fort au foot, il n'y a pas du tout de doute, mais on se dit que c'est presque à se dire que tellement cette équipe est forte. Tu pourrais mettre le boucher du coin, il apparaîtrait comme étant fort. Tu vois ce que je veux dire? Nous, de l'extérieur, on se disait ça, c'était tellement une dream team que même si tu n'as pas beaucoup de qualité, tu vas réussir dans cette équipe-là. Dis-moi pour toi ce que ça faisait quand tu rentrais sur le terrain à Gerland et que tu étais au milieu de cette équipe-là, cette machine à gagner-là. Comment on se sent? Est-ce qu'on a un devoir d'être à la hauteur et du coup c'est une pression? Est-ce qu'au contraire tout est facile parce qu'il y a une telle qualité autour de nous que le moindre ballon qu'on donne, il nous revient comme un ballon doré presque? Comment ça se passe?
Alors l'exigence, moi ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était le, ouais, c'est vrai, ils mettaient beaucoup d'exigences, de rythme, et puis l'impact qu'ils avaient les mecs, parce que moi je me retrouvais comme je t'ai dit sur le dos avec des mecs comme Chris, Cassapa, des mecs
Ouais.
qui avaient un engagement, mais ils rentraient dedans. Et si tu veux, à l'époque c'était une autre formation. Alors là on n'était plus dans le centre de formation, on était dans une formation pro, mais par contre pour moi, j'ai appris beaucoup aux côtés de ces mecs-là parce que c'était le des fautes, ça rentrait un peu dedans quand même, je vais pas te mentir. Et nous, les jeunes, on était un peu quand ça chauffait un peu, bah, c'est nous qui prenions. Donc du coup, il fallait se relever, fallait rien dire. Donc pour nous, ça a été une formation, mais un peu accélérée. Et franchement, quand tu regardes, c'était frappant, mais que ce soit dans tous les compartiments, secteur, défense, milieu, attaque, les mecs étaient comme ça. C'est-à-dire, bah, tu voyais Juninho qui faisait ses séances de. Les gens se disaient, ah ouais, mais le mec, c'est un génie du coup franc. Mais par contre, il fallait voir le nombre de temps qu'il passait à tirer, le nombre à parfaire son geste. Vraiment, les défenseurs, pareil, des séances techniques, les attaquants, la finition devant le but. Donc, moi, j'étais pas surpris du niveau. Mais c'est vrai que pour des jeunes, d'arriver là, ça pouvait être qu'enrichissant, en fait. Ça pouvait être qu'on pouvait qu'apprendre côté des mecs comme ça. Il y avait cette intensité-là, il y avait des accros, mais tu sais, dans toutes les équipes qui gagnent, il y a forcément des moments où bah, il y a des tensions, etc. Malheureusement, c'était nous les jeunes qui prenions quand il y avait des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était un vrai, vrai apprentissage. Et j'ai vu clairement, je me souviens, mon premier match où Gérard Houllier me lance, c'est contre Saint-Étienne, donc un derby. Donc ces matchs-là, à Gerland en plus, donc il y avait ma famille dans la tribune. Je me souviens d'une anecdote, j'ai recroisé Fred Piquion il y a quelques temps, et je lui disais, Fred, tu m'as choqué. Donc, mon premier match, j'avais cette qualité-là un peu, moi, c'était rapidité, quoi. Fred prend le ballon, contre-attaque pour Saint-Étienne, il prend le ballon, je suis à fond. Mais vraiment, je vois Fred, tu sais, qui fait vraiment, il me distance comme si j'avais rien dans les cannes. Et là, je me dis, ouais. Là, on est dans le monde pro, là. Et en fait, tu réalises encore le chemin que tu as encore à parcourir. Et j'avais rediscuté de ça avec Fred. Et je lui avais dit, franchement, ça m'avait marqué. Et tu vois, tu as des petits trucs qui te marquent. Et c'est là où je me suis dit clairement, eh ben, il y a encore du chemin. Tu vois, il n'y a rien d'acquis. Et il n'y a jamais rien d'acquis, d'ailleurs. Hein, jusqu'à la fin de ta carrière, tu peux toujours apprendre. Mais là, sur le côté intensité et tout ça, c'était clairement, ça m'avait choqué. Ouais. Je me souviens, mon premier match, j'ai dit, waouh. Ah ouais, c'est ça les pros. Donc entre les mondes amateurs et les pros, il y a quand même déjà, il y a quand même déjà. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, que des petits trucs qui m'ont marqué et qui m'ont servi aussi, parce que bah tu te sers aussi de tout ça pour pouvoir évoluer. Et puis tu demandes des conseils. Nous devant, on avait des joueurs internationaux, que ce soit Sidney, que ce soit bah, John Carew, Milan Baros, qui étaient des noms hein, aussi. Donc tu
Ouais.
veux, quand tu as la chance de pouvoir évoluer avec ces mecs-là. Eh ben, prends tout ce que tu as à apprendre, quoi.
Alors, tout ce que tu as à apprendre. Je retiens l'émotion de signer dans le club de ta ville, le club auquel tu appartiens depuis tout petit. La fierté par rapport à la maman. Il y a le fait, le bonheur de jouer dans une telle équipe avec de tels talents en étant jeune et d'apprendre. Finalement, sur tes deux premières saisons, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 19 matchs joués.
Ouais.
C'est dire parce que tu es un jeune talent, pétri de talent. Ce dont vous avez besoin à cet âge-là, c'est de jouer, d'emmagasiner de l'expérience.
Mais clairement,
c'est tellement cher, que tu arrives quand même à avoir 19 matchs joués. Pour moi, c'est une petite prouesse quand même dans cet effectif-là, mais c'est dire que je peux comprendre qu'il y ait un besoin de changer d'air.
Ouais.
C'est comme ça que vient la décision d'être prêté au RC Lens. C'est que c'est trop compliqué, il faut du temps de jeu, et là, tu ne l'as pas.
Oui, clairement. C'est exactement ça. Et en fait, tu sais, à cet âge-là, il faut jouer, en fait. Il faut jouer, et surtout, bon, aujourd'hui, on ne va même pas comparer parce que ça va tellement vite. Mais à l'époque, moi, c'est vrai que je suis plus dans l'optique, il faut que je joue. Et je sais clairement qu'à Lyon, je suis barré. Comme tu le dis, peu de temps de jeu. Et puis, bah, sur les matchs joués, ce n'est pas des matchs entiers, quoi, c'est des bouts de match. Donc, à un moment donné, tu te rends à l'évidence et tu te dis que bah, ce n'est pas reculer pour mieux sauter, mais c'est juste de te dire il faut que tu engranges, il faut que tu engranges des minutes, il faut que tu arrives à t'imposer et avec régularité. Donc, c'est là où vient la décision ouais, de partir en prêt. Ouais. Ouais.
Il faut que ce soit un prêt, ou c'est dans ton esprit que ce soit un prêt et que tu restes à appartenir au club, ou est-ce que c'est parce que c'est la seule formule disponible à ce moment-là?
Non, je pense, alors encore une fois, j'arrive dans ce truc-là où il faut que ça soit un prêt pour pouvoir m'imposer et pour revenir à Lyon et jouer. Okay. Tu vois, c'est plus dans ce truc-là que je voyais les choses. Même si, encore une fois, quand les gens peuvent dire bah, « il est fou » avec l'équipe qu'il y avait à l'époque, ça aurait été impossible. Mais comme je te dis, encore une fois, bah, mon ambition faisait que je voulais être prêté, jouer, et puis derrière revenir et pourquoi pas bah, m'imposer à Lyon, qui est mon club, bah, le club où j'ai grandi. Et voilà, donc voilà, mais c'était vraiment ouais, le but, c'était vraiment de jouer, de se faire connaître, de faire éclore le talent au grand jour et de ne pas rester dans la frustration de bout de match. Quoi.
Je pense que tu as plutôt eu raison quand on regarde le bilan de ton passage à RC Lens. Tu pars en janvier 2008.
Ouais.
Tu fais l'autre moitié de saison. Sur la moitié de saison, c'est 12 matchs, 4 buts. Tu es plus titulaire qu'autre chose. Il y a des matchs que tu manques, mais tu es titulaire ouais. La majeure partie du temps. On sent qu'il y a une progression à une vitesse éclair parce que c'est du très haut niveau. Le RC Lens, c'est du très haut niveau. C'est un club très important en France. Et on sent que ton adaptation, elle est linéaire, comme si le seul problème qu'il y avait sur la première partie de saison et la première partie de ta carrière, les premières saisons, c'était simplement le fait qu'on ne t'ait pas donné de temps de jeu. Elle est si facile pour toi, l'adaptation au RC Lens ? C'est vraiment une évidence ou pas ?
Ils ont facilité les choses. Je ne te mens pas, mon passage à Lens, ça paraissait fluide, mais parce qu'ils m'ont accueilli vraiment. Je ne peux même pas te décrire comment ça a été, mais c'était des gens avec la main sur le cœur, mais vraiment dans le club, les supporters, le groupe. Et pour moi, mon passage à Lens, il est regrettable, parce que derrière, ça découle d'une descente en Ligue 2. Ouais. Où je vois des gens pleurer, c'était la première fois de ma vie où je tentais une communion, mais c'était incroyable, le passage en soi, incroyable. Mais par contre, ouais, l'adaptation, elle s'est faite rapidement, je trouve, parce que je crois que sur mon premier match, je marque contre Caen, je crois. Donc derrière, ça facilite aussi les choses. Tu sais, quand tu arrives et que tu marques direct, derrière, ben, la confiance, elle s'installe un peu plus facilement. Mais pour le coup, agréablement surpris. J'en ai pleuré d'ailleurs en partant un peu du cocon familial, parce que c'était la première fois que je quittais chez les parents, ouais. Qui plus est pour aller dans le Nord. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais un peu ces idées reçues du Nord où il fait froid, inana, tu vois, je vais me retrouver tout seul. Donc, j'en avais pleuré. Et ma mère, tout simplement, m'a dit, écoute, tu n'as pas à pleurer, hein, tu deviens un homme et ça va bien se passer. Et au final, ben, elle avait vu juste. Parce que pour moi, alors, c'est vrai que la descente, c'est le point noir au tableau, mais pour le coup, vraiment bon souvenir. Alors, c'était limite trop court, tu vois. Je ne vais pas te mentir, le passage Lensois, parce que voilà, il y avait une équipe aussi de qualité, avec des comme Eric Carrière, Monté Rubio, et j'en passe. Et surtout, ben, l'atmosphère que ça dégageait là-bas, quoi. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est de jouer à Bollard. Et avec tout mon peu d'expérience, moi, c'était vraiment des moments gravé quand ils chantent les corons, quand
Ouais.
et puis vraiment là, de voir le club aussi à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas surprenant parce qu'il y a tout pour réussir là-bas. Vraiment, je suis arrivé, les structures, les centres d'entraînement, enfin tout est vraiment surpris, ouais, vraiment. Alors pour le coup, c'était un prêt, mais je vais pas te mentir, après les 5 mois, j'ai clairement pensé, s'il n'y avait pas eu cette descente en Ligue 2, je pense que je serais resté.
Tu seras resté, ouais, ce que
Ouais,
j'allais
j'aurais
dire.
eu le, en tout cas, j'aurais eu le souhait de rester, ouais.
D'accord. Justement, tu soulignes le fait que, parce que pour moi, c'est le vrai moment où tu t'émancipes de la maison, tu t'émancipes de ton club formateur, tu t'émancipes de la région que tu connais tant, de la maison de chez tes parents. Est-ce que c'est un choc émotionnel même, tu m'as dit que tu en as pleuré, mais est-ce qu'il y a une croissance, du coup, un développement en tant qu'homme, au-delà du joueur, en tant qu'homme, qui se fait à une vitesse éclair quand on s'éloigne aussi brutalement de sa maison?
Ouais, forcément. Forcément, puisqu'il n'y a plus maman pour faire les petits plats quand tu rentres le soir. Donc là, il faut te mettre dans une rigueur et puis quand tu es tout seul, bah, t'as pas le choix. Hein, donc ouais, non, c'était clairement à vitesse accélérée. Et ça m'a fait du bien, au contraire. Parce que j'avais besoin de ce truc-là, de couper un peu le cordon et puis surtout de voler de mes propres ailes. Alors c'était dur à accepter au départ, mais au final je me suis dit que ça m'a plutôt servi que desservi, en fait, de partir comme ça un peu prématurément, et puis voilà, et puis je suis devenu un homme tout simplement. Donc pour moi il y avait plus de côtés positifs que négatifs, ouais.
D'accord. On arrive à la fin du prêt. Comme je l'ai dit, des belles stats, des belles performances, même au-delà des stats, de belles performances. On n'a toujours pas décidé si tu es un attaquant axial ou un ailier à ce moment-là. On est toujours un peu dans l'incertitude. Mais arrive la fin du prêt. L'OL est toujours une machine à gagner. L'OL est toujours avec un effectif important et peu de place. Dans quelle disposition mentale tu es? Est-ce que tu es dans l'idée de, bon, bah, j'ai vu de quoi j'étais capable? Il est temps de partir parce qu'il n'y aura pas de place à l'OL, ou au contraire, bah, vous avez vu de quoi je suis capable. Faites-moi un peu de place maintenant, vous n'allez pas le regretter. T'es dans quel état d'esprit?
Alors, moi, je suis clairement dans l'état d'esprit, il faut que je continue sur la ligne, il faut que je continue à jouer. Donc, je me fais une raison, je commence à me faire une raison en me disant que ça peut peut-être bloquer à l'OL et que ben, va falloir que je trouve une autre alternative, quoi. Je suis plus dans ce truc-là, ouais, voilà, je suis conscient de la situation et que si je reviens à l'OL en me disant ben, je reste là, je suis sous contrat, ça va mettre une cassure dans la progression et ça sera pas bon, quoi. Donc je suis plus dans l'optique de me dire, coûte que coûte, il faut que tu continues à jouer, quoi.
Et cette fois, tu veux un transfert sec.
Ouais, et du coup, ben, on prend le temps de la réflexion avec mon agent de l'époque. Et puis du coup, on décide il y a l'opportunité de l'OGC Nice qui se présente, donc on décide de partir à Nice, ouais.
Là aussi, là, cette fois, tu coupes le cordon, mais définitivement.
Ouais, de l'autre côté. Donc, ouais, si tu veux, là, tu vas direction le sud. Alors, c'est vrai que c'est pas, encore une fois, hein, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais je pense que j'étais mieux dans le nord que dans le sud. Dans les deux expériences que j'ai eues dans le nord que dans le sud, alors footballistiquement parlant, mais juste que j'avais ces idées reçues-là et en fait qui étaient totalement fausses. Et si tu veux, les conditions pour travailler, même parle de température ou quoi que ce soit, c'était bien plus agréable au nord qu'au sud, quoi.
Ouais.
Donc après, c'est là où on est aux antipodes. Mais par contre, ouais, c'est vrai que de partir dans le sud, pour moi, qui était tout seul d'ailleurs, ça impliquait que tu avais la mer, tu avais le soleil, donc il y a peut-être plus de facilité à s'égarer et être moins focus sur le ballon, tu vois ce que je
C'est
veux dire?
vrai,
Donc,
c'est vrai, c'est vrai.
après, voilà, mais c'est vrai que l'option de l'OGC Nice, qui pour moi à l'époque aussi, et maintenant encore, mais c'était un gros club, donc j'ai pas hésité longtemps.
Mais tu le considères comme un tremplin à ce moment-là, comme étant un palier pour aller plus haut encore et rejoindre un club du standing, parce que certes, l'OGC Nice est un club, un gros club français important. On n'est pas à la hauteur de l'OL, surtout pas de l'OL de l'époque. Mais l'idée, c'est de le voir comme une étape avant de potentiellement rejoindre quelque chose de plus haut, ou tu ne te projettes pas si loin?
Si, alors j'irais pas un club de transition parce que ça serait manquer de respect à l'OGC Nice, mais c'était juste ça allait dans la progression, l'étape Nice. Parce que admettons que ben, je sais pas, j'avais été vendu à Marseille, à Paris, enfin, n'importe où. ça aurait peut-être été la même problématique dans le sens où c'est des gros clubs, il y aurait, l'effectif aussi était déjà conséquent. Donc, pour moi, Nice a clairement été le club parfait pour ma progression, en fait.
D'accord.
Ouais.
En termes de progression, justement, je disais tout à l'heure on reste longtemps sans savoir vraiment si tu es axial ou latéral en attaque, pardon. Tu es aligné 23 fois dans l'axe à
Oui.
Nice, 19 mois sur un côté à droite. OK? Sous Fred
Ouais.
Antonetti. Est-ce que toi, tu as déjà une préférence à ce moment-là sur le type de jeu, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas?
Alors, j'ai pas de préférence, pour être honnête. J'aurais une petite préférence sur le côté. Pourquoi? Parce que j'aimais recevoir le ballon et dribbler, en fixé en un contre un. Tandis que quand tu es dans l'axe, bah, tu reçois plus ou moins le ballon dos au but. Donc, tu as le défenseur qui est là. Donc, j'aimais plus ce côté de recevoir le ballon et d'aller provoquer. Donc, si
D'accord.
j'aurais plus une préférence sur le côté. Mais justement, bah, je me retrouve avec un entraîneur, Fred Antonetti, qui pour moi, j'ai aucune honte à le dire et je le dis haut et fort, qui a été le meilleur entraîneur que j'ai eu dans ma carrière.
C'est vrai?
Ouais. Ah ouais, et de loin. J'ai eu des entraîneurs, des bons entraîneurs, de renommée, etc. Mais Frédéric Antonetti, c'est l'entraîneur qui a su justement, bah, tirer le meilleur de moi et de beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs. C'est quelqu'un qui connaît le football, mais par cœur en fait. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais un peu peur parce qu'il avait cette image de mec qui aboie un peu. C'est l'image qu'on lui donnait. Encore une fois, les médias, ils donnent un peu l'image qu'ils veulent. Mais je suis tombé sur un gars avec qui ça a accroché directement et surtout qui savait que, bah, il y avait du potentiel et qu'il fallait encore travailler sur plein d'autres points, qui m'a fait progresser en l'espace de 2 saisons, mais ça a été fulgurant. Et donc, lui, pareil, comme Gérard Houllier, bah, c'est des gens qui ont compté pour moi, et c'est des gens que je remercierai jamais, mais pour moi, ça a été l'un des entraîneurs, ça a été l'entraîneur clé, quoi. Ça a été lui qui a fait que, ben, aujourd'hui, ben, j'ai pu faire une carrière, et puis j'ai surtout, ben, éclos à Nice, et j'ai continué dans ma progression, quoi.
C'est étrange parce que même là, quand tu me racontes ton récit, pendant que j'étais en train de préparer notre interview, j'avais la sensation que tes premières années jusqu'à la fin de saison à Lens, tu étais dépendant de l'affect qu'on te donnait. Et tu vois, même là, quand je t'entends, évidemment, je pense que n'importe quel jeune à ton âge qui se fait attraper le poignet par Gérard Houllier, qui a ses félicitations, etc., forcément a un élan d'émotion et se sent pousser des ailes. Et on va le voir par la suite là, ce qui se passe à Nice, parce qu'il y a finalement un changement de coach. Tu connais deux coachs différents la saison suivante. Tes perfs sont encore plus solides que celles que tu as sur la première saison à Nice. Il y a 36 matchs, 16 buts, 5 passes décisives. Tu deviens international. On a l'impression que ça y est, là, les chevaux sont lâchés et que l'important n'est plus l'équipe qui t'accompagne, qui t'entoure, qui t'épaule, mais que c'est plus toi et tes sensations et ton travail personnel. Il y a un déclic dans la tête au niveau de la maturité qui se passe quand tu es entre ta première et ta deuxième saison à Nice ou pas?
Ouais, il y a un vrai déclic. Alors, du moment où je prends le statut international, je le sens clairement, et puis les supporters me le font savoir aussi, que quand je rate un match, eh ben, tu es international, mon gars. Tu vois, donc tu sens aussi que, bah, c'est un tout, en fait. Hein, mais oui, clairement, je le prends le déclic là, parce que rien qu'au niveau de l'équipe, tu sens que, ben, bon, moi, j'aime pas me jeter des fleurs, mais tu sens que tu es un joueur un peu clé de l'équipe et que, bah, à un moment donné, tu sais prendre tes responsabilités devant, c'est toi qui mènes un peu le truc. Même si on avait, bon, des joueurs comme Habib Bamogo, Bakayoko, des joueurs aussi d'expérience, mais tu sais qu'à ce moment-là, bah, tu dois prendre des responsabilités et tu dois. Voilà, donc, après la première année où c'est limite la continuité de ce que je faisais à Lens, je me dis que ouais, je prends une autre envergure. Et puis derrière, comme tu dis, la première sélection arrive, et ben derrière, ouais, tu prends un autre statut, ouais, dans l'équipe, forcément. Mais comme tu dis, je suis un joueur qui marchait beaucoup sur le côté affectif, énormément. Et tu as des entraîneurs qui le comprennent, tu en as d'autres qui sont moins dans ça, qui ont l'objectif de performance. Mais c'est vrai que les entraîneurs avec qui j'ai le plus d'atomes crochus et avec qui j'ai plus progressé, c'est des entraîneurs qui savaient écouter, qui savaient analyser les choses. Ouais.
Ce que Fred Antonetti a naturellement en lui, il l'a
En tout
en
cas
lui.
avec moi, il le faisait très très bien. Et franchement, C'est le gars qui, sur les moindres détails, alors je ne te dirais pas que c'est au gabarit de Guardiola, mais il connaissait vraiment le football. C'est-à-dire qu'on faisait des séances vidéo où il t'expliquait que toi, ton déplacement, c'est ça, l'équipe va faire ça. Et en fait, c'est ce qui se passait le week-end.
Ouais.
Donc, je pense qu'il est même. On le met pas assez en valeur, cet entraîneur-là. On l'a pas mis assez en valeur, je trouve. Et moi, clairement, je presse pour sa paroisse, mais c'est un vrai, vrai bon entraîneur.
J'espère qu'il entendra le message.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Quand tu vois ton évolution fulgurante comme ça, encore une fois, sur 2 saisons où tu t'émancipes de l'OL, ça, comme tu disais, un petit peu à l'échelle de ce que tu as connu à Lens, ça va très très vite. Tu deviens international très vite. Tu deviens un membre clé de l'équipe très vite. Tu es encore très jeune. À quel moment tu sens qu'il est temps de passer à l'étape encore différente, à l'étape encore supérieure en quittant Nice?
Si tu veux, on était en stage, je crois, ouais, on était en stage, et le coach Antonetti tape à la porte. On était deux par chambre, et on était en train de jouer à la play. C'était à l'époque où j'avais encore le temps de jouer à la play. Et il tape à la porte, et je me rappelle, je lui dis, je pensais que c'était un coéquipier, je lui dis, il n'y a rien pour toi ici, comme ça. Donc il retape, mais moi, je ne sais pas que c'est le coach, tu vois. Je lui dis, il n'y a rien pour toi, je t'ai dit. Il dit, c'est le coach Antonetti. Alors là, je l'explique, ma lettre enlevée. On refait le lit vite fait, tu vois, histoire de truc. Et j'ouvre la porte. Et avec, tu sais, il a l'accent corse. Il me dit, tu veux pas ouvrir la porte? Et je lui dis, si, si, coach, désolé. On pensait que c'était. Il me dit, allez, fais tes affaires. T'es convoqué pour la sélection, pour l'équipe de France. Et je lui dis, c'est une blague. Il me dit, non, non, je te jure, c'est pas une blague. Et donc, du coup, il me dit ça comme ça. Et en fait, ouais, mais ça se fait pareil. En fait, ça se fait super rapidement. Je crois qu'il y a une blessure ou je dois pallier l'absence de quelqu'un. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme je te dis, je sens que les supporters sont beaucoup plus exigeants, notamment avec moi. Et je sais plus quel match, je crois que c'était contre Auxerre, je te dis pas de bêtises, où là on perd. Et là, en fait, sortie de stade. Et donc là, les mecs de la sécurité qui viennent et qui nous disent, bah sortez pas maintenant. On avait perdu ce match-là. Ils disent, c'est un peu dehors, ça brasse un peu, donc sortez pas maintenant. Donc, je crois qu'on attend 1 heure dans le vestiaire. Et à un moment donné, les joueurs, on se dit, bon, faut qu'on rentre chez nous, etc. Donc, ils nous font sortir. Et je me souviens, tu as un vigile devant, deux sur le côté avec moi qui sort. Boum. On sort du stade. Et tu sais, tu as un coin un peu, ben, tu as un passage public, donc tu es avec tous les supporters. Et là, boum, le mec de la sécurité devant moi, il s'écarte. On retrouve pas ça. C'était 45 ans, je pense. Et là, bouteille de bière, nanan, crachat. Tu vois, il me balance.
Ok.
Et là, je dis, ah ouais, c'est chaud, tu vois. Là, je dis, en fait.
Ok.
Ils me font payer parce que c'était pas aussi exigeant avant ça. Et c'est vrai que le fait du statut, bon, je peux comprendre. Et là, ça a dépassé des proportions. Non. Et puis, je n'accepte pas non plus, tu vois, de tout ce que j'ai fait. Tu peux pas dérespecter quelqu'un comme ça. Donc, c'était hors de question. Et donc, j'ai pris mon téléphone en appelant mon agent. Je lui ai dit, écoute, tu me trouves un club. Moi, je pars du club. Ils respectent plus les gens. Donc, il n'y a pas, ça va dans les deux sens. Et donc là, en fait, ça c'est ma décision. Quand c'est radical en plus. Il n'y avait pas de. Et
Ouais.
donc je l'ai appelé et puis on a essayé de trouver un moyen de sortir, quoi. Mais c'est vrai que ça s'est fait un peu. Alors certes, j'étais à une étape où je me disais, ben, j'ai envie de voir plus haut et j'ai envie de connaître la Ligue des Champions. Mais ça s'est fait un peu aussi à contre-cœur. Je suis un peu triste que ça soit passé comme ça avec les supporters. Même si Nice, ça reste dans mon cœur et pour moi, ça a été le club aussi où j'ai passé 2 années fabuleuses.
Au moment où tu décides de justement dire à ton agent qu'il faut que ça bouge, il y a beaucoup de possibilités parce que là, tu n'as plus le même statut du tout que quand tu quittes l'OL pour Nice et que tu es un jeune prometteur, mais à confirmer. Là, tu as un autre statut complètement. Comme tu dis, tu es international, tu as fait tes preuves. Il y a beaucoup plus de possibilités ou c'est assez restreint?
Ouais, il y a des possibilités, notamment en Angleterre, où j'avais clairement exprimé mon souhait à mon agent de jouer, parce que moi, je suis un fan incontesté de Monsieur Titi Henry, tu vois.
Ouais,
Donc,
j'ai
quand
cru
j'étais
savoir.
jeune, je faisais les mêmes célébrations. Enfin, tu vois, on me comparait souvent à lui. Et en fait, ouais, j'avais des clubs anglais, des clubs allemands, et puis Marseille qui était là aussi, ouais.
Vu ton
Après.
amour pour l'Angleterre, pourquoi est-ce que ça se fait pas tout de suite?
Alors, si tu veux, Marseille vient, et Marseille vient directement, José Anigo, avec un contrat sur la table. Donc, Marseille voulait absolument boucler le dossier rapidement, sachant qu'il y avait peut-être d'autres clubs aussi sur le dossier. Donc, ils voulaient ficeler ça rapidement, rapidement. Et en fait, je choisis l'option de rester en France parce que je me dis, alors il y a une progression, mais il n'y a pas encore une confirmation au plus haut niveau, notamment au niveau européen. Je savais que Marseille faisait avec des champions. Et je me dis, c'est des étapes de carrière en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autres. Alors, je fais une généralité, mais c'est l'argent qui mène. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui vont partir outre-Manche ou quoi. Pour l'aspect économique, ce qui est bien d'un côté, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ce qui te permet de vivre, etc., de faire vivre une famille, etc. Mais je pense qu'il y a des étapes à respecter et il ne faut pas les griller, sinon ben, ça peut vite tourner dans l'autre sens. Donc je me suis dit que l'étape Marseille, c'était clairement idéal parce que c'était une autre step. Et surtout que ben, là, si je confirmais là, après derrière, je pouvais me permettre de partir à l'étranger, quoi.
Il n'y a pas beaucoup plus haut que Marseille en France à ce moment-là.
Ouais, clairement, on va pas se mentir, hein. C'était bah pour moi le meilleur club en France, tu vois. Ouais. Donc clairement, quand l'offre est tombée, donc José Anigo est venu et a formulé ce contrat-là. Il pensait que j'allais signer tout de suite, mais on lui a dit non, on va attendre de réfléchir. Donc je pense qu'il a dû, d'ailleurs c'est sûr, il a cogité un peu en se disant oula, peut-être qu'il va nous filer entre les doigts. Et au final, bah, on a opté pour l'option Marseille. Il y avait Schalke aussi, Schalke 04, qui était bah, à deux doigts de vouloir conclure le deal, mais on a préféré rester en France pour une progression et une confirmation, surtout en France et sur la scène européenne.
L'OL, c'était le plus gros club français de ce moment, de cette période-là.
Ouais.
Quand tu signes à l'OM, l'OM sort d'un titre de champion. Donc, tu signes dans le plus gros club français de ce moment-là.
Ouais.
Quelle est la différence? Et je vais surtout parler de l'homme plus que du joueur. Quelle est la différence entre le Loïc Rémy qui doit quitter l'OL, pardon, parce que pas encore assez expérimenté, pas développé toutes ses qualités pour s'y imposer, et Loïc Rémy qui rejoint l'OM. Qu'est-ce qui fait? Évidemment, il y a une qualité qui est supérieure, il y a une qualité qui est
Ouais.
affirmée. Mais en tant qu'homme, est-ce que tu apprends des choses sur toi-même et sur une façon de gérer la vie qui font que s'imposer à l'OM est beaucoup plus réalisable que s'imposer à l'OL à l'époque?
Alors oui, déjà avec les 2 années que je passe à Nice où j'engrange pas mal de matchs, déjà ça m'aide à me dire que bah, l'étape OM, elle va être compliquée parce que tu sais tout ce que ça implique quand tu arrives à Marseille, n'importe quel joueur qui signe là-bas signe en connaissance de cause. Mais surtout, je me dis que bah, déjà physiquement, je suis bien plus étoffé, que l'expérience des 2 années m'a énormément servi. Et que j'arrive à un stade où il faut que bah, je passe encore une étape. Donc, ça ne me fait pas peur en soi, mais tu sais vraiment ce qui m'a forgé aussi, c'est le fait d'avoir cette visite médicale un peu biaisée par le fait que les médecins, les pontes te disaient que je devais arrêter le foot. Et ça, pour le coup, avant de signer à Marseille, c'était un moment compliqué à gérer. Pour moi, c'était compliqué parce que j'étais en pleine force de l'âge, en pleine progression. Et là, en fait, c'est comme si tu voulais couper mon élan. Et ça se résume à ce que je te disais tout à l'heure par rapport au médecin qui me disait que bah, par rapport à mon genou, je ne pouvais pas continuer. Là, il était. Alors, j'y croyais fort. Je savais que je n'allais pas arrêter. Mais tu sais, quand tu as des pontes qui se réunissent et qui te disent écoute, bah, il y a peut-être possibilité que tu mettes un terme à ta carrière. J'y croyais fort, même si bah, le moral était à zéro. Ma mère était encore là à mes côtés. Mais ça a été ce moment-là, il a été compliqué à gérer, ouais. Parce que tu te dis, attends, t'as pas fait tout ça pour rien, t'arrives à Marseille, et là on te dit, bah écoute, on va laisser le temps de la réflexion pour te dire oui ou non. Et ben pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant le laps de temps où ces mecs-là réfléchissaient, bah toi t'es là, t'es au plus bas, quoi. Ouais.
C'est vrai qu'il y a cet épisode quand même de la visite médicale qui a dû chahuter, qui a dû
Ouais.
chahuter quand même.
Ouais.
Bon, une fois que c'est bon, tous les voyants sont au vert, tu signes au club, tu es enfin un joueur de l'OM. Alors, tu l'as dit toi-même, l'OM, c'est un club particulier. On n'a pas la même atmosphère. L'engouement, il est multiplié par 10, 15, 20. Quel est l'élément différent à l'OM auquel tu dois t'adapter, qui te demande le plus d'adaptation pour apprivoiser la vie à l'OM?
Moi, je te dirais la pression et enfin, nous, tu vois, on avait la chance, d'ailleurs, je dirais une chance, parce que j'ai vu aussi l'image de l'OM dans les moments où ça allait moins bien, mais on a eu la chance de bien tourner, bien bien tourner. Donc, je t'aurais dit la pression, oui, sur les matchs où ça allait. Moi, ce qui a plus aussi joué, on va dire, c'est que bah, tu avais un peu le parti José Anigo, le parti Didier Deschamps. Et moi, c'est José qui m'a fait venir, tu vois.
Ouais.
Donc, José m'a fait venir. Je pense qu'aux yeux de Deschamps, je ne faisais pas l'unanimité au départ. D'accord? T'as Gignac qui signe en même temps et Azpilicueta. Et ça, pareil, bah, les médias, ils relatent ça un peu en te disant, bah, Rémi, ce n'est pas le choix premier, etc. Donc, c'est aussi pas réconfortant, mais moi, quand il y a de l'adversité ou quand il y a des choses qui me freinent un peu, ça me donne limite. Moi, j'aime bien ça.
Ouais, bien sûr.
Donc, du coup, le fait de me dire que le coach, je ne suis pas son choix numéro un, bah, faudra que je te prouve qu'en fait, tu n'auras pas le choix de me mettre. Tu vois? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment sur la première année, mais. Au final, voilà, c'est ces petits trucs-là, moi, que je ne prends pas forcément en compte, mais qui étaient dans un coin de ma tête en me disant, bah, écoute, ça te donne une force supplémentaire.
Mais donc ça existe parce que jusqu'ici, je t'avoue que les joueurs ont un peu botté en touche quand on a abordé ce sujet-là, cette friction entre José Anigo et Didier Deschamps. Ça, on le sent quand on est joueur de cette époque-là à Marseille, que la relation très fraîche et les désaccords, le fait de ne pas aller vraiment dans la même direction entre ces deux-là, en tant que joueur, on le sent au quotidien.
Nous, c'est vrai qu'ils nous, bon, ça nous pesait pas et c'est pas des choses que je dis pas qu'ils étaient en train de se battre devant nous ou quoi que ce soit. Il y avait pas de, c'était dans le respect, voilà. Mais tu le vois quand même, tu vois, t'es pas aveugle. Après, moi, je prends pas parti, c'est-à-dire, je suis pas un joueur qui prend
Ouais, bien
parti
sûr.
d'un tel ou d'un tel. C'est-à-dire que c'était le même respect pour les deux messieurs que je respecte énormément. Après, c'était plus matière à parler, ça. C'était plus matière à envenimer les choses et à mettre de l'huile sur le feu. Il n'y en avait pas forcément besoin. Et nous, je pense que le groupe, on s'est protégé, on s'est mis une carapace par rapport à ça. Et ça ne nous regardait pas tout simplement. Et c'est ce qui a donné les résultats qu'on a eus. C'est que ben, on s'est barricadé, on savait ce qu'on avait à faire. Et puis le reste, c'est vrai que ça ne nous regardait pas forcément, quoi.
D'accord. Toi, quand tu arrives dans un club, parce que là, du coup, tu reviens dans un club champion de France, est-ce qu'il y a des choses, et là, je parle vraiment de purement technique, que tu dois travailler pour te mettre au niveau? Est-ce que la qualité technique est plus haute qu'à Nice, par exemple, et il faut que tu te mettes au niveau? Est-ce que la qualité athlétique est plus importante aussi et tu dois te mettre au niveau? Il y a des manques potentiels à gérer pour te mettre au niveau de l'équipe ou pas du tout?
Alors oui, il y en avait clairement parce que les joueurs, alors les joueurs qu'on avait à Nice n'étaient pas ceux qu'on avait à Marseille, sans manquer de respect à ceux de Nice, mais oui, clairement, au niveau technique, c'était techniquement aux entraînements, on avait des joueurs comme Valbuena qui techniquement, bah, on prenait pas le ballon, des joueurs comme Amafitano, des joueurs clairement qui étaient à l'aise techniquement, les frères Ayew. Et puis derrière, moi surtout, parce que moi je prends mon cas, j'avais Souleymane Diawara, j'avais Gabi Heinze, qui eux, pas bah, pareil, c'était pas des tendres. Donc du coup, j'ai dû apprendre aussi en fonction de qui j'avais en face de moi. Et encore une fois, ça m'a énormément servi, quoi. Ça m'a énormément. Alors, je vais pas te cacher, au début, c'était compliqué parce que tu rentres dans ce rythme-là. Et puis surtout, moi, c'était l'enchaînement de matchs qui m'a plus. Qui a plus été qui m'a plus pris énergétiquement, mais par contre après ça va ça devient naturel quoi. Quand tu rentres dans les rangs et puis ça devient naturel, mais c'est vrai qu'au début c'est toujours particulier parce que c'est peut-être pas des habitudes que tu as, c'est peut-être pas des exigences que tu te mets de tous les jours, mais quand tu as des compétiteurs comme ça en fait t'es limite ben, t'es obligé sinon tu joueras pas.
Bah alors, je l'ai dit, tu rejoins un club qui est d'un niveau supérieur à celui que tu avais connu à Nice où tu t'es épanoui. Quand je dis niveau supérieur, c'est Ligue des Champions, c'est lutte pour le titre. Vous finissez deuxième cette saison-là, mais c'est
Ouais.
plus compliqué pour la lutte pour le titre. Une concurrence de niveau supérieur aussi, parce que tu l'as dit, hein, le recrutement, il est costaud. Ils font venir Gignac la même année que toi. Donc, il y a du monde devant. Quand je regarde, j'ai épluché tes performances sur ton arrivée à l'OM. On te voit très régulier, que ce soit dans les apparitions ou dans les buts marqués. Pour un ailier, tu es très régulier. Et les seules cases qui manquent, c'est dans les très gros matchs de la saison.
Ouais.
C'est-à-dire, bon, tu marques une fois contre le Paris Saint-Germain, mais ouais, c'est ça. Ou contre l'OL, je ne sais plus cette année. Mais en gros, on voit que contre le top 5, par exemple, tu joues, tu fais des bonnes prestations, tu as du temps de jeu, mais il n'y a pas encore de but, comparé à l'année d'après. Est-ce que toi, tu as conscience de ça, de cette marge de progression que tu dois réaliser entre ta première et ta deuxième année notamment. Tu as conscience, tu le vois ça ou pas?
Ouais, tu le vois et puis tu le sais hein, d'ailleurs. Hein. Tu sais, t'as pas besoin de stats quand tu sais que. Alors, je te dirais pas que c'est des matchs plus faciles hein, contre les clubs de milieu de tableau ou de bas de tableau, pas du tout. Mais tu sais clairement, et c'est vrai que c'est un reproche que je me suis fait pas mal de temps en me disant t'es pas assez décisif contre les grosses écuries quoi. Donc tu le sais. Après, l'adversité elle est aussi plus forte. Donc c'est vrai que. C'est des choses, bah, tu es beaucoup mieux pris au marquage, enfin, tu as d'autres choses qui rentrent en compte, mais oui, clairement, je le sais. Je le sais que, et même tout au long de ma carrière, bon, j'ai pu marquer contre des gros clubs, mais je sais pertinemment que je peux toujours mieux faire. Je peux toujours mieux faire, notamment contre les grosses équipes, quoi, parce que c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs, encore une fois, on s'est compliqué. Donc voilà, mais non, clairement, je le sais que. Mes stats sont bonnes, mais qu'il faut que je sois plus efficace que dans les grands matchs.
Quand on a commencé, tu m'as dit la ferveur, elle est incroyable quand on gagne.
Ouais.
Et tu m'as dit, tu connais d'abord un OM qui fonctionne. OM qui est deuxième,
Carconne.
Il n'y a pas le titre au bout, mais il y a une grosse saison qui est réalisée.
Ouais, on est.
Tu connais aussi l'OM qui fonctionne un peu moins bien.
Ouais.
Qui est plus compliqué. Alors dis-moi, parce que du coup, nous, de l'extérieur, c'est un. Évidemment, on sait qu'une saison à l'autre, tout peut changer. Mais quand on voit un OM qui fait titre et deuxième, on ne peut pas s'attendre à un OM en grosses difficultés comme ça a été le cas. Est-ce que vous, en interne, vous sentez qu'il y a quelque chose dans la machine qui commence à grincer et à faire que potentiellement la saison, elle peut être moins bonne que la première que tu as réalisée? Collectivement, je parle.
Ouais, après, tu sais, ça se traduit aussi par… Je te dirais, tu vois, tu as plus de tension dans le groupe. Donc, tu sais, quand c'est un peu fragile, quand des petites tensions, dans des petites. Bon, après, ça reste en interne, tu vois. On essaye de garder plus ou moins en interne, mais des tensions à l'entraînement, des petits clans qui se forment, tu vois. Et quand ça commence à partir comme ça, c'est à ce moment-là que tu vois que bah, c'est plus compliqué, quoi. Tandis que sur la première année, c'est vrai que. Ouais, tu as toujours des affinités avec d'autres ou pas, enfin, ça dépend, tu vois, mais en général, il y avait une bonne cohésion. La deuxième année, c'était plus compliqué. Ouais. C'est vrai que tu sentais que ben, y avait tel clan par là, le clan brésilien, là, là. Et c'est là où ouais, ça se traduit par des résultats comme ça. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que c'est des choses où on se dit ben, la deuxième année, on peut faire beaucoup mieux. Mais tu as le changement d'entraîneur aussi, je crois.
Bah, du coup, oui, ça se passe mal et il y a le changement.
Ouais, changement d'entraîneur, donc tous ces trucs-là. Moi, personnellement, en plus, c'est Eli Bob, ça se passe, c'est pas bien du tout. Donc, en gros, ouais, tu as tout ça qui rentre en compte. Mais c'est vrai que de la première à la deuxième année, tu vois la différence, ouais, clairement. Je peux pas te le traduire, je peux pas t'expliquer si c'est l'interne, l'externe, si c'est. Mais c'est vrai que ça joue énormément dans n'importe quelle équipe. Quand tu vois que les mecs s'entendent bien, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de tout ça, ben forcément, ça aide à avoir des meilleurs résultats sur le terrain. Ouais.
Bon, tu l'as dit toi-même, alors je suis obligé de mettre les pieds dedans. Eli Bop.
Ouais.
Alors, on sent, il y a des rumeurs qui disent, c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, qu'au départ, tu n'es pas le premier choix de Didier Deschamps. Mm-hmm. Tu fais une saison où tu carbures. Ensuite, il y a Eli Bop. Et alors, de l'extérieur, on sent que tu ne fais pas forcément partie de ses plans, mais on a du mal à penser qu'on puisse mettre à l'écart un mec aussi performant, même si on n'est pas forcément un grand fan du joueur. Raconte-moi un petit peu comment se passe la mise en place. Est-ce qu'il y a un échange entre vous? Est-ce qu'il est direct avec toi en te disant, écoute, ton profil est top, tu es un bon joueur, je te respecte, mais tu n'es pas dans ma vision du foot? Comment ça se passe?
Et en fait, c'est ça qui est un peu, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est l'affectif. C'est-à-dire, ce que tu me renvoies, je vais te renvoyer le double, triple. Donc, à la base, il vient, donc il prend ses fonctions. Et c'est vrai que l'échange, il n'est pas… Bon, ça reste pareil, respect, parce que j'ai toujours respecté n'importe lequel de mes entraîneurs. Mais tu n'as pas l'échange où qu'est-ce qui se passe, comment s'est passée la saison dernière, qu'est-ce que… On ne rentre pas dans tout ça. Et si tu veux, moi, je respecte ça en me disant, il y a ces trucs. Et je suis le genre de joueur qui est jamais, mais dans tous les clubs où je suis passé, je ne peux pas, c'est question d'éthique ou question de, je ne sais pas, je ne peux pas aller toquer dans un bureau en demandant à l'entraîneur, est-ce que je peux m'asseoir, pourquoi je ne joue pas? Impossible. C'est impossible. C'est peut-être de l'ego mal placé, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais il était hors de question que j'aille voir l'entraîneur. Il avait ses plans. D'ailleurs, ça s'est pas passé, c'était pas top, mais moi, j'ai jamais eu de discussion profonde avec le coach en lui disant pourquoi je ne joue pas, quelles sont les raisons, pourquoi tu me mets à l'écart ou pourquoi voilà, je suis sur le banc. J'ai jamais eu ça. Et il a jamais pris il a jamais fait la démarche de lui venir m'expliquer pourquoi. Donc, si tu veux, quand tu restes dans ce truc-là de dialogue de sourds et que les choses, elles n'avancent pas. Et surtout quand tu as des mauvais résultats et que tu veux pas faire changer les choses, à un moment donné, ben, tu vois, tu peux pas non plus. Et c'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part. Alors, c'est peut-être une erreur de jeunesse de ne pas avoir pris le temps d'aller lui parler, lui dire coach, pourquoi. Mais ce feeling-là, en fait, je me suis toujours dit que non, je peux pas. C'est-à-dire que si je joue, je mérite. Si je joue pas, je mérite pas. Donc, moi, pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai pas pris le temps. J'aurais peut-être dû, mais avec les jeux, les si, on aurait refait le monde. Mais j'aurais peut-être dû aller me poser et prendre un petit moment en me disant, allez, sois plus intelligent et va parler avec le coach et vois ce qui va pas. Essaye de. Mais à l'époque, non, il était hors de question que j'aille parler au coach et lui demander pourquoi je joue pas. C'était lui qui décidait et c'était son problème. Et voilà.
Mais une relation, c'est deux personnes. Que toi, tu décides de ne pas y aller, c'est une chose. Mais jusqu'ici, tu as été un moment important. Tu as connu quand même deux saisons, c'est
Ouais,
deux saisons
mais.
sous Didier Deschamps que tu fais avant qu'il ait beau Paris. Donc, tu es un moment important de cette équipe-là. Dans le groupe, tu es important. Je te vois, tu es quelqu'un de jovial, tu es quelqu'un de déconneur, tu es quelqu'un qui amène de la vie à ce groupe-là. Il n'y a pas d'entre guillemets, intervention aussi de la part des coéquipiers pour essayer d'arranger les choses un petit peu.
À l'époque, je pense pas, non, je pense pas, mais si tu veux, y a pas eu d'accroc, rien. Je t'aurais dit s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, bon, c'est compréhensible, mais pour le coup, j'ai pas eu d'accroc, quoi. Ça passait pas, c'est tout, hein, c'est pas chercher plus loin. Mais pour le coup, ouais, c'était très compliqué de savoir pourquoi je ne jouais pas. Alors, il y a eu des blessures qui sont venues après coup. Je pense que moi, je suis un joueur, comme je me suis dit, qui je cogite énormément. Donc, ça a dû jouer aussi sur mon corps, le fait que je joue pas et que. Mais après, voilà, c'est une étape, on va dire, où ça a été compliqué parce que je savais pas pourquoi. Si tu m'avais dit pourquoi, peut-être que j'aurais pu. Mais là, j'étais dans dans le néant complet et en fait, je laissais couler, en fait, je laissais couler. Mais encore une fois, c'est un regret parce que je me dis, j'aurais peut-être dû aller et au moins j'aurais su et puis j'aurais peut-être pu changer. Mais crois-moi qu'à l'époque, non, c'était hors de question que j'aille voir le coach pour lui demander
Ouais, je
pourquoi.
comprends ça. Je
Et
comprends.
encore une fois, si t'as une équipe qui tient des bons résultats et que l'équipe tourne, j'ai rien à dire. Je m'assois et ton équipe tourne. C'est totalement compréhensible. Mais là, c'était pas le cas. Donc, si tu veux, c'était un peu, je sais pas, compliqué à analyser tout ça. Mais voilà, j'ai préféré laisser courir.
À l'époque, on le dit encore une fois, dans le club français le plus populaire qui est dans une forme incroyable. Avant la saison des Lipos, je te remets dans le
Ouais.
contexte de ma question parce qu'il y a une étape que j'ai besoin de saisir. Donc, tu es sous Didier Deschamps, vous avez fini deuxième d'abord et ensuite la saison est un peu plus compliquée derrière, mais tu es quand même à l'OM. Toi, tu es plus performant la deuxième saison que tu vis à l'OM que la première. On sent que tes performances elles sont encore plus abouties personnellement. En Ligue des Champions, paradoxalement par rapport à la Ligue 1, vous réussissez une meilleure saison, vous perdez en quart contre le Bayern.
C'est ça.
Donc il y a une exposition encore plus importante que l'année d'avant au niveau international. À l'été, où Didier Deschamps s'en va, donc une page qui se tourne et Eli Bopp arrive, est-ce que toi, tu as une tentation de te dire c'est la fin de l'ère Didier Deschamps, est-ce que c'est pas temps pour moi aussi de prendre le virage Ligue des Champions, Première Ligue notamment, tu vois?
En fait, non, parce que j'étais bien là-bas. J'étais bien là-bas que. Alors, on peut encore parler de progression et de se dire, bon, voilà, l'Angleterre, c'est vrai que c'est un championnat qui est attractif, mais moi, en fait, pour être honnête, j'avais pas envie de partir de Marseille. J'avais pas envie de partir de Marseille. Ça s'est passé dans des conditions un peu, le club m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte, mais j'avais pas envie de partir de Marseille parce que ben, j'avais quand même, je m'étais établi dans ce groupe-là qui vivait super bien. Jusqu'à l'ère des Champs et j'avais pas envie de partir de Marseille. C'est après que ça s'est compliqué et puis je me suis dit bon voilà il faut que tu partes mais dans ma tête c'était pas j'étais encore sous contrat je sais plus combien d'années il me restait donc j'avais pas forcément l'envie de partir. Ouais.
Bon, on l'a dit, du coup, il y a les 6 mois sous Oli Bob qui ne sont pas top pour toi, frustrant. Il y a quand même 23 matchs disputés, 13 comme remplaçant. Donc, tu joues, mais tu n'as plus du tout le même statut que celui que tu vas avoir sur Didier Deschamps. À quel moment, là, tu m'as dit, le club te fait comprendre qu'il faut partir. Toi, tu es dans quel état d'esprit? Parce que tu t'en vas pour QPR, on va en parler, parce que hier soir, très tard, j'ai fait l'interview d'Adel Tarabt et il a été plein d'éloges envers toi. Je vais te dire ça.
Très, très bon joueur. Adel, écoute, lui, je vais te dire phénomène. Phénomène. On reviendra là-dessus.
On reviendra dessus, mais je t'ai mis le teaser, il est là. Ouais. Et comment dire du coup, tu t'en vas à un moment, le mercato de janvier, moi, je trouve que c'est le plus compliqué pour sortir. Parce que c'est un peu des à la rescousse, des coups de dernière minute, etc., etc. C'est le club qui te dit de partir ou c'est toi qui dis ça a trop duré, il faut que je parte? Comment ça se passe?
Non, c'est le. Alors, tu vois, encore une fois, sans donner de nom, etc., le club, on est en déplacement à. Je ne sais plus où. On est en déplacement à Strasbourg, je crois. Je reçois un appel vers 22h, 23h. Donc, on avait match le lendemain. Et là, on me demande de descendre à l'accueil parce qu'apparemment, il y a un terrain d'entente avec Newcastle. Et là. Si tu veux, moi, je comprends pas trop. Mon agent m'a pas appelé, j'ai pas eu d'appel, je comprends pas trop. Donc, je dis clairement que non, en fait, on a match demain, on aura le temps de régler ça après le match. Je suis concentré sur mon match, etc. Donc non, on m'ordonne de descendre. Et donc je descends. Et là, en fait, on me dit, bah écoute, on a trouvé un accord avec Newcastle. Tu vas faire tes affaires et ça y est, c'est déjà réglé. Donc, j'appelle mon agent, je lui dis, écoute, t'es au courant? Il me dit, non, je sais pas. Écoute, fais ce qu'on te dit, nanana. Donc, je fais mes affaires, etc. Donc, ça se passe un peu dans la confusion totale, mais la plus totale. Je rentre à Marseille. Donc, là, on se voit avec mon agent. Et si tu veux, en fait, c'est pour ça que je te dis, je pars à contre-cœur. Je pars à contre-cœur clairement du club. Parce que, je pense que si j'étais resté, je sais pas, mais je pars à contre-cœur, en fait. J'ai pas envie de partir, c'est pas le moment, comme tu dis en plein milieu de saison, c'est pas le moment le plus propice. Mais on me demande de partir. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que je suis un joueur à valeur financière qui a encore voilà. Je sais pas à quelle raison. J'ai pas forcément demandé. Mais on m'exprime clairement le souhait qu'il faut que je parte. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ils trouvent un accord avec Newcastle. Newcastle qui à l'époque, enfin ils étaient 17e je crois de première ligue.
C'est donc... Newcastle ou QPR?
Alors l'accord est trouvé avec Newcastle.
Ok, c'est bien Newcastle, tu fais pas erreur.
C'est bien Newcastle. Ouais. L'accord est trouvé avec Newcastle, on reçoit le truc au final, le contrat, etc. Et QPR, donc Tony Fernandez qui est président QPR, qui nous appelle en sachant qu'on va signer à Newcastle et qui nous dit écoute, ne signez pas à Newcastle, je veux que Loïc vienne à QPR. On lui dit non, Tony, c'est le contrat, il est déjà là, Newcastle. Et si tu veux, ce qui a fait pencher la balance, tu vas rire, hein, mais c'est une anecdote encore de fou. Tony me dit, je prends un avion privé, je viens te voir à Marseille. S'il te plaît, ne signe pas. Laisse-moi au moins te voir. Je fais l'effort de venir. Si tu veux signer à Newcastle, c'est toi, mais au moins qu'on se rencontre, qu'on puisse échanger, etc. Il dit ok. Tu vois, le mec, il te dit déjà, voilà. Donc il prend l'avion, il atterrit à Marseille, il vient à la maison. Et l'anecdote de fou, bien les oreilles. Il était avec une dame, je sais pas si ouais, ça devait être sa femme, une chinoise. Et donc il descend, il laisse la bonne femme dans la voiture. Il faisait 30 degrés, je crois, un truc comme ça. Il lui laisse un carreau, tu sais, ouvert comme ça, tu vois, histoire qu'elle puisse respirer. Et il monte. Mais moi, je me dis bon, s'il monte là et qu'il la laisse dans la voiture, c'est qu'à mon avis, on a pas pour longtemps. On discute un peu et. Et donc, il monte, on commence à discuter. Donc, il me dit, écoute, viens à QPR, c'est à Londres. Et puis, si tu veux, à l'époque, QPR était juste en dessous de Newcastle, en points. Je crois qu'il y avait un ou deux points qui les séparaient. Ouais. Donc, ce n'était pas énorme. Et il me dit, tu seras à Londres, etc. Et on commence à parler. Donc, je lui dis, écoute, c'est compliqué. Newcastle, ils sont déjà là. Et il voit que j'ai une PlayStation. Véridique. Hein. Il me dit, oh, you got the PlayStation. Je lui dis, ouais. Il me dit, let's play FIFA. Je dis, really? Il me dit, ouais, viens, on fait une partie de FIFA. Je dis, bon, bah, si tu veux, j'allume la play. On commence à jouer. Le mec, comme un enfant, il était debout devant la télé. Moi, j'étais assis sur le canapé. Écoute-moi, Colin, il était debout devant la télé dès qu'il y avait une action chaude. Mais oh, il devenait fou. Ah, ah, tu sais, il criait. J'ai dit, oh, mais c'est pas possible. Et tu imagines l'image, moi, avec peut-être un potentiel futur président, en train de jouer à la play, et le mec, il se la donne, tu vois, il était dedans. Et on finit de jouer, tout ça, et au final, vraiment, bon, il y a l'aspect économique aussi, je ne vais pas te mentir, il m'a
ouais,
dit,
bien sûr.
Il a rajouté. Mais par contre, le fait de voir le mec qui se déplace, qui est humain, mais c'est incroyable, le mec, il était tout le temps là, il venait au match, il était là, dans le vestiaire, je me suis dit, putain, le mec, c'est un bon mec. Et comme je te parlais du côté affectif tout à l'heure, je me dis, avec un président comme ça, franchement, ça peut le faire, quoi. Et en fait, au final, bah, j'ai opté pour QPR et non pas Newcastle. Mais pour te dire, c'est pas la partie de FIFA qu'a fait, mais c'est presque ça, tu vois. C'est incroyable. Incroyable.
Ouais, c'est l'humain avant tout, quoi. L'humain avant tout.
Ah ouais, non, c'était un truc de fou.
Et voilà, les amis, c'est la fin de la première partie de l'interview de Loïc Rémy. Il y avait tellement de choses à partager qu'on a décidé de vous faire deux vidéos. Vous allez voir, la deuxième, c'est un régal. On va parler évidemment de son transfert à QPR et sa rencontre avec Adel Taarabt. L'interview d'Adel Taarabt, elle est déjà disponible sur la chaîne. Allez voir ça, c'est un régal. On va aussi parler de Newcastle, de Chelsea, Mourinho, Drogba, Eden Hazard, le LOSC. Rien n'a été négligé. Rendez-vous très vite sur Call Interview pour une deuxième partie d'interview dingue. Allez, ciao.